Bienvenue sur l'empreinte digitale. Dans cet épisode, on va parler Facebook Ads et j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Dalmas. Salut Antoine.
Salut à tous, salut Fabrice, merci de me recevoir sur ton podcast.
Bah, c'est moi qui suis ravi de t'accueillir, vraiment. Merci à toi d'avoir pris du temps aujourd'hui pour qu'on puisse échanger ensemble donc sur une thématique que je n'ai pas souvent abordée dans le cadre du podcast d'Empreinte Digitale, donc c'est le fameux Facebook Ads. Alors, je vais te laisser te présenter peut-être Antoine, toi tu es un spécialiste pour le coup hein, avec ton agence, je te laisse peut-être nous en parler.
Pas de problème, moi je travaille dans l'agence J7 Media, on est dédié à la publicité sur Facebook, j'en fais depuis 5 ans, je suis certifié Media Buying et Media Planning par Meta, notre agence est aussi certifiée et on aime beaucoup créer du contenu autour de ça. J'en veux pour preuve le podcast Social Selling qui sort de façon hebdomadaire dans lequel on parle de nos activités sur Facebook Ads, nos tests, etc. On a aussi très récemment repris le projet de Joseph Dogno qui est le podcast No Play, No Pay, qui est aussi un podcast hebdomadaire. Donc on s'y connaît bien en Facebook Ads, je dirais, et on en parle assez souvent, on aime bien créer du contenu autour de ça.
Ouais, vous avez repris récemment donc, le podcast de Joseph. Joseph, si tu nous écoutes, on te salue au passage. Joseph aussi avait fait un article invité sur l'empreinte digitale il y a quelques temps. Je remettrai le lien en bas de cet épisode. Donc du coup, vous avez repris le flambeau là. Ça y est, c'est parti. Ça. Un nouveau podcast dans la sphère de J7 Media.
Un nouveau défi même de création de contenu pour ne pas te le cacher. Parce que C'est vrai que passer de 1 à 2 podcasts. Alors après, on a d'autres podcasts aussi. On a un podcast sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Hypercroissance et un podcast sur le e-commerce de façon générale qui s'appelle Commerce Elite. Donc on est en plus d'être une agence de pub, on est une agence de podcast finalement, on est en train de devenir un média, voire une radio, tu vois, donc un sacré challenge pour pas te le
cacher. Alors vous connaissez certainement les podcasts qu'a cité Antoine, si vous ne les connaissez pas, je vais vous mettre aussi les liens, on va finir à toute façon l'épisode pour rappeler toutes les adresses, mais je vous remettrai tous les liens en bas, vous allez voir qu'il y a une belle mixité entre l'accent français et l'accent québécois.
Oui, il faut le dire.
Surprise, voilà. Vous êtes basé où, Antoine ?
Alors nous, on est une agence qui a ses bureaux à Montréal. Donc c'est pour cette raison que sur les podcasts, il y aura beaucoup d'intervenants qui sont québécois, mais aussi français d'Europe, je dirais. Et ensuite, on est un peu étalonné partout un peu dans le monde parce qu'on a pris la vague du télétravail. On est très à l'aise avec ça, je dirais. Donc on est un peu en France. On est aussi à Barcelone très récemment parce qu'Antoine Gagné, qui est le fondateur de l'agence, est à Barcelone en ce moment. Il profite d'un hiver européen et plus québécois, avec grande joie. On en parlait en préparant l'émission, mais effectivement, c'est quand même plus agréable un hiver en Europe qu'un hiver au Québec. Voilà, c'est mon avis. Ça n'est que mon avis, ne me crachez pas dessus, mais pour avoir vécu les deux, c'est quand même plutôt agréable.
Ah, j'ai pas vécu l'hiver là-bas, mais je l'ai entendu parce que j'ai dit pas mal d'amis québécois aussi de Montréal et qui me disaient l'hiver presque ils vivaient sous la terre hein, avec les tunnels et tout parce qu'il y a trop de neige là-haut. Quoi.
Bah, petite anecdote si tu veux, après on pourra en briller, mais une fois je rentrais chez moi parce que j'ai vécu à Montréal, une fois je rentrais chez moi, il faisait tellement froid, j'avais le vent en pleine face et le vent était tellement froid que d'abord il me brûlait la peau et ensuite il m'empêchait de respirer. Et du coup j'ai dû avancer à reculons. Dans la rue, parce que j'avais pas d'écharpe pour me protéger la bouche, quoi. C'est comme mettre sa tête en dehors d'une voiture qui roule sur l'autoroute et d'essayer de respirer avec le vent dans la face, c'est impossible. Ouais. Ça m'a fait exactement la même chose et j'ai dû marcher à reculons sur toute une rue. J'étais ravi, j'étais bien fatigué de rentrer chez moi. Voilà.
Anecdote. Bon, voilà, ne nous crachez pas dessus, les amis, si vous aimez l'hiver québécois. On aime aussi beaucoup nos amis du Québec, bien sûr. Après, c'est vrai, voilà, peut-être qu'on a plus d'affinité avec la chaleur et c'est le cas dans Antoine, donc l'autre Antoine de l'agence, qui lui préfère le soleil de Barcelone. Et il a raison, c'est sympa aussi, Barcelone.
Complètement.
Alors l'agence, donc vous avez plusieurs podcasts, on y viendra, on conclura aussi avec ça pour donner un petit peu toutes les références. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Antoine parce qu'on va parler donc d'une thématique. Alors elle est un petit peu ambiguë celle-ci parce que on va parler de Facebook Ads. Alors pourquoi c'est ambiguë? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas trop abordé dans l'empreinte digitale, sur l'empreinte digitale. Il y a peut-être, si vous n'êtes pas habitué à faire de la pub Facebook, on pourra avoir un certain regard en disant « Waouh, mais ça, c'est le passé, ça, c'est les années 2010, quoi, c'est fini, ça !» Alors, c'est pour ça que
je voulais... MySpace.
Ouais, c'est trop vieux, ça, Facebook, en plus de la pub. Non, aujourd'hui, on est dans l'inbound marketing, monsieur, donc on ne fait pas de pub, nous, on crée du contenu pour faire venir les gens dans le tunnel et tout. Alors, c'est pour ça que, du coup, je me suis dit « Tiens, c'est intéressant de parler avec Antoine, parce qu'Antoine, avec l'agence, donc ils sont spécialistes de ça, donc déjà pour... » on est sur un public averti, hein. Je pense que si vous écoutez l'empreinte digitale, c'est que vous avez déjà une sensibilité digitale, mais peut-être que vous êtes encore une acquisition de connaissances, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore testées, notamment les ads sur Facebook. Est-ce que tu peux nous dire déjà, allez, rapidement, en deux mots, qu'est-ce qu'on entend par Facebook Ads ou Meta, toute la plateforme Meta et tout ça, c'est quoi, tout simplement ?
Pas de problème. Bah, Facebook Ads, c'est la plateforme publicitaire détenue par Meta qui vous propose de faire de la publicité sur Facebook et Instagram. Et on a tendance à l'oublier, mais pour simplifier, nous, on dit Facebook Ads, mais effectivement, il y a Facebook, il y a Instagram. Chez Meta, on peut retrouver aussi WhatsApp, mais il n'y a pas de publicité pour l'instant. Globalement, Facebook Ads, c'est l'une des deux plateformes publicitaires les plus puissantes du monde avec Google. D'ailleurs, comme Google aussi, elle propose de diffuser vos publicités sur un parc de partenaires externes, comme des sites web ou des applications mobiles. Et elle est largement utilisée par des annonceurs comme des e-commerce, des infopreneurs, des coachs, des entreprises qui souhaitent générer aussi des leads pour leur base de données.
Ok, ouais, Facebook Ads, bon, bah, voilà, c'est la plateforme Facebook. Hein, ça va faire 20 ans, hein, Facebook déjà, hein, c'est 2004. Donc,
ça doit être aujourd'hui. Ça, ouais.
Ouais,
19 ans
un...
même, 19 ans.
J'ai... 19 ans.
Ouais, ouais. Je lisais les posts de Mark Zuckerberg là dernièrement. Ça fait cliché de dire ça, mais c'est vrai.
Ouais. Ah ouais, mais Mark, c'est vrai que j'ai ressorti l'autre jour une vieille vidéo de lui. C'était une vidéo de, 2005. Il est tout début hein, de Facebook. Il, est, il a l'air d'un ado. Il est interviewé par une journaliste qui on sent que c'est une pro. Elle est vraiment à l'aise et tout.
Ouais.
Et lui, il l'est pas du tout. Et c'est un gamin sur un siège. Il a un short qui ressemble à rien. Il ressemble même lui à pas grand chose. C'est vrai qu'il est.
Il allait donner le ton sur toute la Silicon Valley derrière, hein, sur tous les mecs qui arrivent en short et en t-shirt dans des rendez-vous de banque.
Ouais, voilà. Ouais. T'as complètement raison. Il est dans cet état d'esprit-là et sur son t-shirt, c'est marqué My mom thinks I'm cool. Ma mère pense que je suis cool, dit que je suis cool. Enfin, c'est dingue. Je remettrai ce lien vers cette vidéo si vous voulez.
De quoi inspirer confiance envers les investisseurs.
C'est grave, c'est ouf. Alors en France, moi j'ai fait de la banque et on n'était pas du tout dans cet esprit-là. Il fallait arriver en costume cravate, l'arrêt au milieu et tout quoi.
Bizarre. Okay.
Ah non. Mais bon, ceux qui ont changé le monde, c'est quand même Mark Zuckerberg et les autres quoi.
Mais est-ce que t'étais plus proche de Mark Zuckerberg ou plus proche de American Psycho que j'ai revu récemment qui
Peut-être entre les deux, peut-être, je sais pas.
Ouais, je te souhaite que ça soit entre les deux et pas vers American Psycho pour le coup.
Ouais, non, c'est clair. Non, plutôt côté Zuckerberg, mais j'ai commencé à être dans le digital, on va dire, au sens large, dans le web plutôt. Hein. Plutôt dans le web 1997. Premier site web 1997. Mmh. J'étais étudiant à l'époque, les amis, pour vous raconter ma vie en deux secondes. Et comme je devais faire mes études en alternance, je trouvais pas d'alternance. Et puis un jour, je frappais une porte au hasard. C'était un truc, c'était marqué, il y a un truc. Petite annonce, enfin, petite pancarte là dans une tour, type La Défense, mais c'était à Nice, c'était à l'Arena, pour ceux qui connaissent. Et je rentre comme ça et je savais pas du tout qu'en tapant, en frappant à cette porte, ça allait complètement changer ma vie, quoi. Et en fait, le gars qui me reçoit, il avait créé une start-up, il développait des sites web en 97. Personne n'y connaissait rien, l'HTML, on savait pas ce que c'était. C'était Star Trek, tout ça, c'était la quatrième dimension. Et il me prend au commercial pour que je fasse ma dernière année d'études et j'ai découvert un truc et là, je me suis dit, waouh! Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie à l'époque. Je faisais des études en disant je verrai après ce que je fais, j'en sais rien, j'avais aucune piste précise. Et ça a changé ma vie, je me suis dit mais ça c'est complètement dingue. Et puis j'en suis quasiment pas sorti. Et puis voilà, ça fait quelques années à présent, 25 ans plus tard, je suis plaisir d'être avec Antoine et puis on parle de Facebook Ads. Voilà.
T'as eu ton wow moment, ok.
Ah je l'ai eu mon wow moment, j'en ai eu un deuxième récemment en plus.
Ah ouais toujours sur le digital toujours
ChatGPT.
Ah ouais. Bah,
truc qui va changer le monde.
Oh là là, ouais.
C'est cette claque.
Et mais d'ailleurs, alors je pourrais pas en parler des heures, mais Meta a sorti Llama, je crois, qui est son équivalent en IA.
Ouais.
Et apparemment, je regardais quelques spécialistes en parler parce qu'il faut comprendre que ChatGPT te prend énormément de ressources pour tourner. Et Llama, donc 2LAMA avec des majuscules et des minuscules en plein milieu du mot, est beaucoup, beaucoup plus léger et, et a de bien meilleures performances. Enfin, à performance égale, voire plus, selon la puissance que tu lui donnes. Donc, je pense que tu auras l'occasion de te prendre un troisième wow moment incessamment sous peu.
Donnez-moi des Yahoo Moments, on aime tous les Yahoo Moments, les Wow Moments. Ouais, et en plus, il y a eu quelques ratages au début sur celui de Facebook, mais il ne faut pas se moquer, il ne faut pas jeter tout le truc. Quand il y a un ratage au début, c'est normal, tout le monde s'est planté.
Ouais.
Même quand Steve Jobs a sorti l'iPad, tout le monde a rigolé. Mais voilà, on sait ce que c'est devenu ensuite. Donc, il faut laisser faire au début, c'est normal qu'on se plante. Mais Zuckerberg, il envoie quoi.
Et est-ce que tu savais, autre anecdote, est-ce que tu savais qu'il avait l'iPad avant l'iPhone?
Non, ça, je sais pas.
C'était dans son bouquin, il en parlait. En fait, ils ont eu l'iPad et il a dit, de mémoire, il disait, faut pas qu'on le lance maintenant, les gens vont pas comprendre. Vaut mieux qu'on on touche d'abord quelque chose qu'ils utilisent en permanence, à savoir leur téléphone. Donc, on a l'iPad, on va le coffrer, entre guillemets, okay. Et on va travailler sur l'iPhone. Et une fois que l'iPhone sera accepté, etc., ouais. On sortira l'iPad.
Une fois que le produit aura, il y aura un marché, quoi.
Ouais, les exactement. Gens sont prêts pour l'iPad, quoi. Il y a pas de produit, enfin, le produit ne peut pas convenir au marché, le marché n'est pas encore prêt. Il faut qu'on façonne le marché. Je trouvais ça dingue.
Excellent. Alors, c'est l'un de mes livres de chevet, la biographie de Steve Jobs. Tu parles de celle de Walter Isaacson, j'imagine.
Je vais te parler de celle où la couverture, il est en noir et blanc, il se touche la barbe du château. Ça doit être probablement celle-ci, d'ailleurs.
Ouais, celle-ci. Eh bien, j'ai pas retenu cette anecdote, tu vois. De toute façon, il faut que je le relise. Donc, j'ai pas retenu cette anecdote.
Ah, mais c'est. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs bouquins d'entrepreneur. Franchement, j'ai trouvé ça fantastique. À l'inverse, j'avais lu celui de Nike et j'étais super déçu. L'art de la victoire. Je trouvais ça beaucoup. Bah, peut-être que ça parlait pas de tech aussi, donc c'était peut-être moins comme celui-ci. Steve Jobs, voilà.
Si tu regardes ton écran, ce qu'on est en vidéo avec Antoine, si tu regardes dans la petite fenêtre,
c'est celui-ci. Phil Knight, voilà c'est ça. Ouais. Okay.
Pour moi, c'est un super livre. Après, voilà, comme tu disais pour l'hiver québécois, hein, chacun ses approches. Moi, je trouve que c'est un super livre. Enfin, il est intéressant dans le sens où Phil Knight, fondateur de Nike, c'est le gars au départ, il est pas fait pour ça, quoi.
Il a pas eu la vie facile sur son projet. Ça, c'est clair. Ouais. C'est ce qui m'a sauté aux yeux. C'est, je me suis dit, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il va crever. C'est impressionnant.
Et au bout de sa vie, le gars, humainement, parce qu'il est super introverti, extra timide. C'est un gars qui a un peu de phobie sociale. Il a du mal à communiquer avec les autres. Il n'est pas à l'aise. Et c'est le gars qui va se révéler être un businessman incroyable et qui va être ensuite la superstar. Enfin, il va signer Michael Jordan, tous ses proches chez Federer et compagnie. Enfin, c'est un gars qui va être incroyable. Alors qu'au début, il part de rien. Et même humainement, il a pas. On pourrait penser qu'il a pas les capacités pour aller aussi loin.
Et peut-être que j'ai coupé le livre un peu trop tôt avant de le voir partir en superstar. J'avoue qu'il y a eu un moment où j'étais genre...
C'est vrai.
Bon, là, j'ai l'impression que c'est un peu les malheurs de Sophie. J'en ai marre, j'arrête.
Ouais, mais après, t'as les bonheurs de Phil, après. Okay. Donc, lis la suite.
Je vais voir si je le reprends. Je suis pas sûr, mais je vais voir.
Alors, deux livres qu'on peut vous conseiller. On est un petit peu hors méta, mais c'est pas grave. Donc, la biographie de Steve Jobs, je suis complètement d'accord avec Antoine. Mm-hmm. Pour moi, c'est tout en haut de la pile. Le truc à lire en priorité, c'est l'histoire d'informatique par la personne la plus incroyable qu'on ait faite dans ce secteur-là. Il faut vraiment lire son histoire, vous allez apprendre énormément de choses, notamment des tips business, hein, comme Antoine l'a rappelé. Parfois, attention à ne pas sortir un produit trop tôt tant qu'il n'y a pas le marché. Ouais. Ça peut être valable aussi pour une formation. Il y a une formation, il n'y a pas encore le marché, il faut peut-être faire une première formation pour acculturer un peu les gens, pour les préparer, et ensuite vous sortez votre blockbuster derrière, quoi. Et puis, sur un aspect plus humain, Phil Knight, fondateur de Nike, bah, si vous n'êtes pas quelqu'un de très spontané, pas quelqu'un de facilement commercial, ou etc., vous verrez que malgré tout, avec peut-être certaines faiblesses qu'on pourrait imaginer être des faiblesses au départ, vous pouvez en faire une force finalement, vous appuyer dessus. Et à la fin du livre, c'est lui qui aide les plus faibles à être tirés vers le haut, quoi. Il y a une belle leçon, c'est quand même pas mal.
Attends, j'ai vraiment loupé le bouquin, donc il va falloir que je m'y remette une bonne fois pour toutes.
Bon, en tout cas, si tu as lu celui de Steve Jobs,
ça va.
Ouais, c'est pas mal. Bon, alors du coup, on va revenir sur Facebook Ads, du coup, donc la plateforme Meta, donc ça fait presque 20 ans, hein, ça fera 20 ans l'an prochain. Donc alors, cette plateforme, elle a évolué depuis, Antoine, aujourd'hui, c'est quoi cette plateforme? Comment elle a bougé avec le temps?
Elle a énormément évolué au moment où je suis rentré dedans, donc c'était il y a 5 ans vraiment. Maintenant, je pense qu'il y a eu des changements assez important sur lequel on peut passer un peu plus de temps. Je vais commencer par iOS 14. C'est une mise à jour d'Apple qui est arrivée en mai 2021, si je ne dis pas de bêtises, et qui a totalement redessiné les contours du tracking pour l'entièreté des plateformes publicitaires. Et je vais définir tracking, c'est juste la façon de tracer les conversions en dehors de la plateforme et de les attribuer à vos efforts et donc vos campagnes publicitaires. À savoir, si je fais une campagne de conversion achat, j'optimise pour avoir des achats, je dois avoir un système de tracking qui me permet de savoir que sur mon site, il y a eu un achat et de l'attribuer à ma campagne. Et iOS 14 a complètement chamboulé ça. Ça a laissé Meta dans une situation sans précédent, mais qui a su revenir et proposer une toute nouvelle méthode de tracking, mais on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Par contre, l'apparition d'iOS 14, ça a enclenché un autre point qui est super important, la disparition progressive de certains critères d'audience. Il faut comprendre qu'il y a 5 ans, Meta avait de nombreuses possibilités pour cibler un utilisateur. Mais avec iOS 14, ainsi que le RGPD en France et son équivalent aux US, dont j'ai oublié le nom, bah, ça a contraint la plateforme et d'autres plateformes publicitaires à abandonner ces critères de ciblage. Alors, Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est incapable de cibler. Sur Facebook Ads, on peut cibler le lieu, le pays, région, ville, etc. Le genre, l'âge. On peut cibler des critères, des points d'intérêt quand même assez élevés. Mais il y en a certains qui ont disparu. Est-ce que c'est un mauvais point ? Bah, pas du tout, et on va voir immédiatement pourquoi. En fait, les algorithmes de Meta sont rendus sans précédent. Et j'insiste vraiment sur ce terme. Ce qu'on a perdu en audience, on l'a gagné en optimisation. Et ce que j'appelle optimisation, c'est le fait d'affiner son coût par résultat en jouant avec les différents leviers de la plateforme. Aujourd'hui, l'un des paramétrages Facebook Ads les plus puissants qu'on ait jamais vu, il se nomme le Advantage Plus. Imagine seulement, Fabrice, tu crées une campagne, tu dis simplement dans quel pays tu veux faire de la publicité, rien d'autre. Hein. Tu dis pas je veux cet âge, je veux ces critères. Non, tu dis juste le pays, tu charges ta publicité et c'est tout. Et en fait, Meta va se charger de tout le reste. Il n'a pas besoin de savoir ce que tu vends, il n'a pas besoin de savoir qui tu vises parce qu'en fait, il va le trouver. Il va le trouver comme un grand parce que tu lui dis « Moi, je te paye pour que tu me trouves des achats. Je me paye pour que tu me trouves des leads. Je me paye pour que tu me trouves des conversions de telle sorte. » Et lui va faire en sorte de trouver des gens qui sont capables de le faire. Donc ça nous laisse, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus derrière, tout le temps de travailler sur ce qu'on sait réellement faire en tant que marketeur, à savoir affiner notre message, affiner notre offre. C'est plus du tout une plateforme de hacker comme ça, enfin, et je dis hacker entre guillemets hein, bien sûr, mais avec des petites méthodes qui durent 2 semaines et puis on passe à la suivante, etc. C'était beaucoup le cas quand je suis arrivé, j'envoyais dans tous les sens, mais là maintenant Meta en fait c'est soit tu suis un peu ce truc très automatisé, ou même Meta est capable de te Meta est capable de te, comment dire, de te donner des idées de copies, de textes publicitaires par rapport à ce que tu as fait auparavant, par rapport à ce qui a fonctionné. Il va se dire, tiens, vous aviez cette publicité, elle fonctionnait bien, il y avait telle copie, vous pouvez reprendre ce copie ou on en, vous en propose un autre. Donc, c'est devenu une plateforme qui, soit tu la suis comme ça, soit tu continues à faire des choses de façon artisanale. De façon artisanale, si tu as envie de tester et de sortir un peu plus de levier pour tes coûts d'acquisition.
Ouais, incroyable, effectivement, la plateforme est devenue tellement intelligente, finalement, bah ça, tout ça, c'est le travail de 20 ans, hein, de captation, de data, et surtout de bonne exploitation.
Traitement des données, ouais, clairement. Ah non, c'est impressionnant, vraiment, chez Google, est en train de... Google a son équivalent, il me semble, je connais pas très bien, mais on a des experts Google quand même à proximité, et ils nous parlent de performance max. Pour ceux qui sont que sur du Google Ads, imaginez que performance max, ça soit Advantage Plus, voilà, par exemple.
Ouais, incroyable, non mais c'est des plateformes donc du coup voilà qui ont beaucoup évolué, alors elles s'adaptent, hein. Tu as parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure avec la nouvelle offre de, voilà, qui est incluse dans Facebook. Voilà, 20 années de collecte de data, de bon traitement data, de bonne exploitation, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont une plateforme assez incroyable, tu nous dis, en termes de ciblage. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pour ça qu'en intro je disais c'est un petit peu bizarre peut-être de parler de Facebook Ads, parce que est-ce que le public finalement c'est pas, est-ce qu'il y a toujours du monde sur Facebook, est-ce que c'est pas la ville fantôme, parce que là les derniers chiffres qu'on a, on est à, alors tu me diras si tu confirmes ces chiffres là enfin en tout cas ceux que j'ai vu dans Wear Social et tout ça, c'est, on est allé à la limite, hein, on est bientôt sur les 3 milliards, on est à 2,9 milliards, on doit être autour des 3 milliards. Donc est-ce que c'est pas une ville fantôme où finalement il y a beaucoup de monde d'inscrits parce qu'on a tous eu un compte Facebook à un moment, mais aujourd'hui il n'y a plus personne qui y va, donc est-ce que ça vaut le coup encore de faire de la pub sur Facebook?
Je pense qu'il y a une idée un peu reçue à propos de Meta, parce que il y a des concurrents qui ont le vent en poupe aussi, on va très clairement en parler, genre des TikTok, des Pinterest qui eux sont quand même sur une niche, mais une bonne niche, je dirais, si on veut faire de la publicité. Mais il y a une idée reçue sur Meta, et je vais me baser sur des études publiques pour appuyer mon propos, et je te laisserai les mettre dans les notes de l'émission. Pour moi, il y a 2 points importants quand on veut faire de la publicité. Il y a le volume d'utilisateurs et le volume d'argent dépensé en ads. En janvier 2023, tu as Statista, qui est un cabinet d'études, qui sort le volume d'utilisateurs mensuel actif pour toutes les plateformes sociales. Tu en as fait du coup l'épisode aussi du 24 mars. Sauf que tu avais cité Digiday, il me semble, qui est un très très bon, magazine, c'est ça ?
C'est un média.
Un média, voilà. Ouais. Je me disais, c'est pas un magazine le terme, c'est un média. Sur le classement, on avait en premier Facebook Ads. Statista pointait 2,95 milliards de personnes. Ouais. Deuxième, YouTube, 2,51. WhatsApp, 2 milliards. Instagram, 2 milliards. En cinquième, tu avais WeChat, qui est propre à la Chine. Et en dernier, en sixième, puisqu'après il y en a d'autres derrière, tu avais TikTok, qu'il y avait 1 milliard. Alors, certes, la courbe des nouveaux utilisateurs progresse de moins en moins chaque trimestre pour Meta, mais c'est normal, parce qu'un titan de cette taille, ça ne peut pas grandir éternellement au même rythme qu'un nouveau réseau social qui a le vent en poupe, mais le volume d'utilisateurs il est majoritairement ici. Maintenant, on va parler des revenus publicitaires, toujours avec Statista. En 2022, Meta, c'est 113 milliards de dollars. TikTok, qu'on aime comparer, c'est 11 milliards de dollars. Twitter, c'est 4,4 milliards de dollars. Et Twitter, d'ailleurs, a connu pas mal de petits problèmes, notamment grâce à Elon Musk. Et on a Pinterest, qui a 2,5 milliards. Pour moi, 113 milliards, ce n'est pas un chiffre anodin. Ça démontre quand même une grosse confiance des annonceurs sur la plateforme. Confiance qu'on a pu observer à notre échelle avec des clients qui n'hésitent pas à augmenter leur budget tant qu'on est bon dessus. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas à se dire « faut absolument utiliser Facebook Ads parce que c'est Facebook Ads ». Non, c'est parce que Facebook Ads, il y a des retours dessus, des bons retours dessus. Et en fait, tant que les annonceurs sont contents, ils vont continuer d'augmenter leur budget parce que c'est là qu'il y a les plus gros retours.
Ouais, c'est vrai qu'on a toujours ces chiffres-là. Et c'est vrai que les deux plus grosses plateformes publicitaires au monde, c'est Google et Facebook, hein, clairement, enfin Meta, si on veut prendre au sens large. Alors c'est vrai que les chiffres, tu les donnes, ils sont imparables, effectivement. À partir du moment où il y a un tel volume de dépenses faites par les entreprises pour communiquer sur ces plateformes, c'est que ça marche. Sinon, elles ne dépenseraient pas autant, elles seraient parties sur TikTok ou ailleurs, quoi.
C'est un peu ça. Et puis c'est graduel chaque année. Hein. L'année dernière, ils n'étaient pas à 50 milliards, Meta. L'année en 2021, donc ça fait plusieurs années que ça dure, ça. Donc, si c'était vraiment une ville fantôme, je pense que ça ferait un moment qu'on soit... je n'arrive même plus à en conjuguer mes verbes. ça ferait un moment qu'on serait en dessous de ce chiffre.
Ouais. Comme ce sont des chiffres mondiaux, la seule question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'en France, les gens sont toujours sur Facebook ? Parce qu'aux États-Unis peut-être, en Inde peut-être, au Brésil peut-être, mais en France, alors toi qui travailles justement pour... Tu travailles pour des clients français ?
Clients français. Okay. Majoritairement, nous, on a des clients canadiens, mais on a des clients français, on a des e-commerce, on a des infopreneurs aussi, donc des personnes qui vendent des formations. Ouais. En soi, ça marche très très bien. On a aussi, je fais petit à petit la mise à jour des clients qu'on gère là et qui ciblent notamment la France. La France fonctionne bien, la Belgique aussi. Je m'amuse pas tellement à cibler le Luxembourg, mais je suis vraiment, disons que j'essaie de pas trop me disperser avec les budgets, donc je préfère cibler France, Belgique, un petit peu la Suisse, mais oui, ça fonctionne. Alors. Encore une fois, c'est facile d'arriver et de vous dire oui, ça fonctionne, mais après, c'est des tests. C'est sûr que tout le monde n'aura pas du succès sur Facebook Ads parce que c'est pas simplement mettre de l'argent sur une publicité et puis let's go. Il y a toute ce que j'appellerais en vrai une science derrière, mais c'est une science de la publicité sur Facebook. On aura l'occasion, je pense, d'en parler derrière. Si tu me demandes les meilleures pratiques, je pourrais t'expliquer un peu, mais... ça n'empêche que c'est une plateforme sur laquelle, je pense, beaucoup, beaucoup d'annonceurs, même en France, même en Europe, même, ont du succès avec.
Ah, excellent.
Je pourrais pas... Si tu me demandes là, tout de suite, le nombre d'utilisateurs en France, d'utilisateurs actifs mensuels, je pourrais pas te le donner. Voilà, ça, je te le dis tout de suite. Mais c'est ce que je peux te dire de mon expérience et de ce qu'on dépense, notamment en Europe.
Après, voilà. Alors, j'ai pas le chiffre spécialement en tête pour la France non plus, mais comme tu le dis très bien, effectivement, à la limite, qu'il y ait 1 million, 10 millions, 50 millions d'utilisateurs actifs, bon, c'est plutôt dans l'ordre peut-être de 10 millions que 50 millions, évidemment.
Ouais.
Mais encore une fois, et aujourd'hui, est-ce que vous avez beaucoup de médias qui vous offrent une telle audience et que vous pouvez cibler de façon si précise avec des budgets aussi réduits, parce que après tu peux te dire moi je vends du coaching sportif, je vais faire l'équipe. Alors les amis de l'équipe, si vous nous écoutez, j'ai rien contre vous, évidemment, c'est pour donner un exemple. Si je veux faire une pub dans le magazine l'équipe, ça va me coûter une quatrième de couverture, ça va me coûter 140 000 euros à peu près.
Ouais.
Le taux de déperdition, je le connais pas, le ciblage il est pas ultra fin, et puis c'est une publication one shot, ça fait quand même des gros budgets. Si je te contacte, on fait un contrat et je te donne 140 000 euros de budget Facebook Ads, tu me fais des trucs bien, tu auras un bon retour, Antoine, qu'est-ce que ça donne ?
Ouais, on peut, dépendamment de ce que tu vends, mais tu vois, moi, ce que je pourrais travailler, c'est... Alors, imaginons que tu es un e-commerce, donc il y aurait forcément des campagnes de conversion pour générer des achats, mais il y a aussi quelque chose qu'on aime beaucoup faire, parce que la vente, pour moi, elle ne s'arrête pas à Facebook Ads, et c'est pour cette raison qu'on a un pôle qui le maîtrise dans l'agence, mais faire aussi de l'emailing. C'est-à-dire que les gens qui vont sur ton site, tous ne vont pas convertir. L'idée, c'est quand même aussi de pouvoir collecter des emails de façon opt-in. Hein, c'est-à-dire, c'est pas un hack. Je ne vole pas votre email. Ouais, voilà. Mais aussi de travailler avec ça. Chez tous les gros clients qu'on gère, il y a Facebook Ads et emailing. Et l'un travaille avec l'autre, c'est certain. Et je ne pense pas qu'un annonceur ait un succès fulgurant. Alors, c'est probable, mais vous perdez de l'argent à ne pas avoir les deux. En fait, j'aime bien utiliser cette image de super. Il y a un seau avec des trous, vous le remplissez d'eau. Facebook, c'est l'eau c'est votre source d'eau et vous envoyez de l'eau. Et en fait, l'emailing, c'est ce qui va vous permettre de mettre des rustines sur ces trous pour éviter que l'eau s'échappe en fait et reste dans le seau. Je peux pas l'expliquer mieux que ça. Voilà.
Ah, c'est excellent, c'est une super
J'ai
image.
Travaillé toute la nuit pour la trouver, celle-là.
Excellente. Garde-la. Et merci de l'avoir trouvée pour nous, pour l'empreinte digitale. Une super image. Effectivement, dans vos tunnels de conversion, ce qui va remplir la data, les contacts qui vont rentrer dans le tunnel, c'est ceux-là. Hein. Ils vont arriver depuis Facebook Ads, vu que ça fonctionne bien. Mais après, vous n'allez jamais convertir à 100%. Hein. Tu as un taux de conversion moyen en e-commerce ? Moi, j'en ai un, mais pour avoir un petit peu si on a le même. C'est faible, hein, quand même.
Non, alors. J'ai plus l'image sur les Shopify. Donc les Shopify, c'est la plateforme e-commerce qui est majoritairement utilisée par des e-commerçants. C'est leur back-end, si je puis dire. Ouais. C'est sûr que ça va dépendre. Ça peut être entre 2 et 5%.
Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais.
Et ça va dépendre aussi des périodes. Tu vois, il y aura des périodes où ça va convertir en masse. Le Black Friday, notamment, une période ultra chargée en publicité. Tout le reste d'ailleurs de l'année, donc décembre, surtout en Amérique du Nord, parce que Black Friday, c'est une religion, quoi, très clairement. Ouais. Donc ça va dépendre, mais oui, entre 2 et 5%, je pense.
Ouais, c'était la data que je donnais aussi, entre 2 et 5 à peu près. Donc les amis, si on voit la bouteille à moitié vide, et parfois il faut la voir comme ça, ça veut dire que vous avez entre 98 et 95% de vos contacts qui arrivent sur le site via la pub qui vont partir. Donc là, c'est effectivement le conseil que recommande Antoine, c'est garder de l'emailing, capter la data. Vous n'allez pas capter 95%, vous n'allez pas capter la data de tout le monde, de ceux qui partiront, mais vous allez en capter 10, 20, 30, 40 si vous êtes très bon, 50 peut-être même si vous êtes excellent et plus. Mais par contre, ceux-là, vous allez les travailler ensuite au corps avec votre emailing.
Clairement.
C'est ça que tu veux dire.
Et il faut comprendre que l'emailing, contrairement à du média payant, ça coûte moins cher par rapport à la conversion. C'est marrant parce que je suis spécialiste Facebook Ads et je parle d'emailing, mais c'est un peu bizarre, mais c'est la vérité. Il vous faut les deux. Il vous faut les deux. C'est investissez dans une plateforme emailing, ayez des ce qu'on appelle des flows ou des séquences automatiques qui vous permettent de parler, de maintenir la discussion avec vos prospects, avec vos visiteurs. Les clients qui ont les meilleures années avec nous en Facebook Ads, ce sont des clients qui ont ça obligatoirement. On peut pas faire sans. Enfin si, on peut faire sans dans le sens si ça peut fonctionner sans, mais on fera moins bien et on aura beaucoup de pertes. On va laisser, les Canadiens aiment beaucoup dire ça, mais on va laisser de l'argent sur la table.
Ouais. Alors voyez, pour reprendre l'image justement d'un magazine, comme je disais, un magazine sportif, quand vous faites cette publicité très coûteuse, le ciblage, pas super fin, vous avez beaucoup de déperditions. Et du coup, vous n'avez pas cet aspect... où je peux garder et travailler quelqu'un, le contact qui a vu la publicité, qui a été intéressé à un moment, le magazine papier part à la poubelle et on passe à autre chose. Là, la personne est venue sur votre site, vous avez réussi à capter sa data, et ensuite, ça va prendre des jours, des semaines, quelques mois peut-être pour le convertir, mais vous allez faire ce qu'on appelle le lead nurturing, vous allez couconner ces leads-là pour un jour et les transformer en clients, pour le coup.
Clairement, et puis moi si je devais faire une pub chez l'équipe, ça serait je suis Unibet, je suis je suis une marque installée, je suis une marque connue, je suis quelque chose de ultra populaire dans le sens n'importe qui peut venir acheter chez moi. Ouais. Je pourrais pas me permettre, et puis surtout, et ça c'est pas propre à Facebook Ads mais c'est propre à la publicité en ligne, mais c'est que tu peux vraiment traquer quoi. Tu peux traquer tout ce qui se passe. Et puis, tu peux, avec des UTM, etc., suivre un peu l'évolution de tes cohortes, l'évolution de... Enfin, bref. Mais moi, j'ai eu mon wow moment avec ça aussi. Donc, c'est le fait que c'est quasiment organique. C'est quasiment organique, alors que c'est du pay, mais c'est organique. Genre, ça évolue avec le temps. C'est génial. J'adore.
Voilà, je vais vous faire cet épisode en deux parties parce que l'interview complète d'Antoine a duré à peu près une heure. Je pense que c'est des formats un petit peu longs hein, sur du podcast. Je préfère vous le faire en deux fois 30 minutes. Donc la prochaine fois, on verra dans l'épisode numéro 2 quels sont les atouts hein, de la plateforme Facebook Ads par rapport à d'autres plateformes social media comme Twitter ou TikTok. Et puis on verra aussi et surtout les conseils hein, d'Antoine pour utiliser ce canal pay media à bon escient dans votre stratégie. Alors je vous le fais donc en deux parties, en deux épisodes. Vous savez qu'à présent il y a les commentaires disponibles sur Spotify et comme vous êtes la majorité à utiliser ce canal, laissez-moi un mot pour me dire si vous préférez des formats courts, 20-30 minutes, ou si vous préférez des formats longs. Et dans ces cas-là, la prochaine fois, bah, si vous êtes une grande partie à me le demander, bah, je publierai l'interview complète hein, qui sera du coup sur des formats 60 minutes. Et si vous êtes sur Spotify donc, ou Apple Podcast, vous savez que vous pouvez aussi laisser une évaluation. Alors n'hésitez pas par la même occasion à laisser quelques étoiles. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se retrouve très vite donc, pour la deuxième partie de l'interview d'Antoine Dalmas. À bientôt, salut.